La première. Podcast. Tout le monde y passe.
Jusqu'à 11h. Sur La première.
C'est le nouveau directeur musical de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie que nous recevons à présent. Bonjour Franck Bralet.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Félicitations. Hier soir, au Théâtre Royal de Mons, lors d'un concert, le passage de témoin a été officiellement scellé. C'était une belle soirée.
C'était une soirée très réussie, très émouvante, effectivement, parce que nous avons partagé la scène avec tout l'orchestre, Augustin Dumay, qui a été quand même pendant 10 ans à la tête de cet orchestre. Voilà, public très accueillant, très chaleureux, beaucoup de Montois qui étaient là pour assister à ce moment symbolique.
C'est une fierté pour vous de prendre les commandes de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie ?
Bon, en tout cas, c'est un honneur vraiment, parce que justement, c'est un orchestre qui a une grande et belle histoire, hein, voilà, qui est né avant moi. Et donc de s'intégrer dans cette histoire, de l'honorer, en même temps d'amener ce que peut-être je peux leur apporter, c'est un honneur et une responsabilité aussi.
Ce que je peux peut-être leur apporter, qu'est-ce que vous comptez leur apporter ?
Ça, il faudra leur poser la question au bout de quelques mois de
vous
travail.
Venez avec quelles envies, quels objectifs ?
Mais en tout cas, ce que moi je sais peut-être ce que je peux donner, hein, comme disait ma maman, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Voilà, donc moi j'arrive avec beaucoup d'excitation, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de fraîcheur, puisque en fait c'est une activité tout à fait nouvelle pour moi. C'est dans ma vie de musicien, je suis pianiste. Alors j'ai joué en musique de chambre, en solo avec des divers orchestres pendant.
Mais vous n'avez jamais été chef d'orchestre.
Mais c'est mon premier poste de chef, j'ai dirigé ici ou là un petit peu. Donc pour moi, c'est vraiment, j'arrive avec énormément de fraîcheur, de curiosité, d'enthousiasme. Et donc je sais qu'eux vont m'apporter beaucoup. Mais en tout cas, cette fraîcheur, moi j'espère bien leur communiquer.
On suit une formation pour devenir chef d'orchestre ?
Certains oui, certains pas, c'est une chose qui s'apprend. De fait, diriger un orchestre, tout instrumentiste peut travailler des heures chez lui tout seul avec son instrument, peut-être ne pas jouer de concert, mais un chef d'orchestre ne peut travailler réellement qu'in vivo, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a, enfin, il ne va pas travailler tout seul devant son miroir. Il faut un orchestre, il faut des musiciens. Voilà, donc évidemment, il y a de la technique qui s'apprend, on peut prendre des cours, mais ça s'apprend, voilà, il faut mettre les mains dans le cambouis. Et moi, c'est plutôt comme ça. J'ai un tempérament très empirique. Voilà, j'aime pas tellement qu'on me dise ce que je dois faire. Et j'aime bien tester, essayer, voire faire mes propres bêtises pour les corriger ensuite. Donc c'est un peu comme ça que j'aborde la discipline.
Vous n'aimez pas la théorie ?
En tout cas, j'adore la pratique.
Franck Bralet, vous êtes français, vous avez remporté le premier prix et le prix du public du concours Reine-Élisabeth, c'était en 1991.
Le siècle dernier.
Vous aviez à l'époque 22 ans et peu de temps après ce temps fort de votre carrière, vous aviez été interviewé par la RTBF Archive.
Oh, j'ai dû en signer quelques centaines entre le soir du concert, le soir de la proclamation. Dans la rue, pas vraiment. Hein. Je me suis fait arrêter une ou deux fois dans la rue, des gens qui me félicitent. Mais c'est pas comme Madonna. Je peux me promener tranquillement sans une escorte de garde du corps. C'est vraiment une autre vie qui commence. Des voyages, beaucoup de concerts.
Vous avez signé vos premiers contrats ?
Oui, je vais 10 jours au Japon en décembre. Donc, c'est amusant parce que j'ai pris 2 fois l'avion dans ma vie. Donc cette année, ça va faire vraiment un changement absolument incroyable. Il y a le Japon, il y a les États-Unis.
Depuis, vous en avez signé beaucoup des autographes ?
J'en ai signé quelques-uns encore hier soir. Oui, mais j'entends ce jeune homme qui était encore étudiant au conservatoire à l'époque, conservatoire de Paris. Voilà, et c'était.
Et qu'est-ce que vous vous dites quand vous entendez ce jeune homme qui avait à l'époque 22 ans ?
Mais je me remets assez facilement dans sa peau et je vois à quel point c'était un bouleversement. C'était vraiment, pour moi, il y a un avant et un après. Hein, et c'était d'une brutalité, pas au sens violent, mais en tout cas de soudain. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ma vie a changé. Il n'y a pas beaucoup d'occasions comme ça. C'est-à-dire que j'étais un obscur étudiant du conservatoire de Paris et le lendemain, j'étais auréolé d'un prestigieux prix international. Des gens qui ne m'auraient même pas serré la main la veille venaient me voir en disant qu'ils étaient très honorés de me rencontrer. Et moi, évidemment, je m'étais pas métamorphosé pendant la nuit, donc moi j'étais le même, mais tout le regard sur moi et les attentes, surtout les grandes attentes, quand on est dépositaire d'un titre aussi prestigieux, voilà, était là, et donc il fallait y faire face. Et puis toute cette nouvelle vie, effectivement, je disais, j'avais pris deux fois l'avion, j'étais très sédentaire. Alors, j'ai fait 10 fois le tour du monde. C'était, vous savez, comme dans les vieilles réclames où on voyait ça. Dans Gaston Lagaffe, j'avais lu ça. Il y avait une vieille pub comme ça où vous voyez le type qui est gringalet, qui a pas de cheveux, qui est blafard, et puis il prend une potion demi magique, et puis il est musclé, il a le sourire ultra bright et des cheveux soyeux. Voilà, c'était un peu ça. Moi, de jour au lendemain, j'ai changé dans l'esprit des gens.
Et grâce à ce concours et grâce à votre victoire, c'est une grande histoire d'amour aussi qui a démarré entre vous et la Belgique, entre vous et les Belges.
Ah oui. Ah oui, vraiment, j'ai découvert ce pays, j'ai découvert les gens ici, j'ai été accueilli d'une manière tellement chaleureuse, tellement fraternelle. Et chaque fois que je reviens ici, j'ai l'impression d'être vraiment le cousin de France. Et j'ai été adopté par ce pays, je l'ai adopté aussi. J'ai eu envie d'y vivre. C'est vrai que je suis très attaché à ma ville, à Paris. Mais il y a très peu d'endroits au monde qui me manquent. Je suis très très bien en France. Il y a deux endroits, c'est Tokyo et c'est la Belgique. Voilà, donc c'est une histoire d'amour avec ces deux pays.
Et comment vous l'expliquez, cet amour pour la Belgique, au-delà de ce concours de Sœur Anne-Elisabeth ?
Mais j'aime les gens ici, et je trouve que vous avez des qualités que nous avons un peu perdues. Moi, j'aime le côté rabelaisien des Belges, c'est-à-dire cette manière de profiter de tous les aspects positifs de la vie, des bonnes choses de la vie, et puis surtout quand on vient de Paris, ça fait un bien fou, cette année de vacances, c'est la manière dont les Belges ne se prennent pas au sérieux. Et ça, pour un Parisien, c'est vraiment une autre planète.
Alors, avant de vous diriger vers la musique, vous avez apparemment, j'ai lu ça, hésité entre des études scientifiques et musicales. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance vers la musique ?
La paresse. Je crois que c'était plus facile pour moi de jouer du piano que de résoudre des équations différentielles. C'est aussi simple que ça. Et puis, j'ai cette faiblesse que je peux pas tenir avec 4-5 heures de sommeil. Donc, à un moment, j'ai dû choisir. J'étais étudiant à la fac. Je faisais des maths et de la physique. Et ça m'intéressait beaucoup. Et j'avais envie de devenir astrophysicien. Mais voilà, la musique, je joue du piano depuis que j'ai 4 ans. Donc, j'ai appris à lire la musique avant de lire le français. Pour moi, c'est absolument naturel. Et ça s'est imposé petit à petit. Comme la chose la plus évidente pour moi. Malheureusement, il y a des scientifiques qui, eux, peuvent le week-end faire de la musique pour leur plaisir, mais il y a peu de musiciens qui, justement, s'amusent à résoudre des intégrales ou des équations le week-end.
La musique, c'est votre première langue ?
Oui, oui. C'est vrai que je me suis tourné vers le piano, j'avais 3 ans et demi. C'était comme un gros jouet pour moi et je ne l'ai pas quitté.
Tout le monde y passe ? Pascal Claude.
Franck Bralet, qui est notre invité ce matin, il est le nouveau directeur musical de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Franck Bralet, quels sont les enjeux de votre nouvelle mission ?
Les enjeux, c'est de continuer à ce que l'orchestre grandisse, prospère, vive. Un orchestre, c'est une famille, hein, avec toutes les beautés, toutes les joies, toutes les difficultés aussi d'une famille. C'est un petit groupe, donc ce sont 12 musiciens, plus l'équipe administrative. Donc pour moi aussi, c'est prendre la tête presque une petite PME, en fait. Hein, c'est faire vivre un groupe. Donc l'enjeu, c'est que l'orchestre continue en même temps à être très, très enraciné dans son terroir, c'est-à-dire Mons et la région, et en même temps rayonne dans toute la Belgique, rayonne aussi à l'étranger, ce qu'il a fait beaucoup avec Augustin Dumay. Voilà, ce sont ces différentes strates, et c'est vrai que c'est très différent d'aller jouer dans une petite église près de Mons ou de se retrouver au Palais des Beaux-Arts ou au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Voilà, il faut cette capacité d'adaptation à tous ces environnements différents.
Et comment allez-vous utiliser votre baguette de chef d'orchestre ?
Alors, hier, j'ai dû oublier ma baguette. Je dirige à main nue, donc on verra si c'est un bon choix ou pas. Mais écoutez, comme je vous dis, ce sont en fait plusieurs baguettes et plusieurs casquettes, voilà, pour faire en sorte que l'orchestre continue de se développer. Et surtout, très important que les musiciens continuent d'avoir cet attachement à à leur orchestre ce désir de travailler. Moi, c'est ça qui m'a frappé quand je les ai rencontrés tous. C'est de voir que des gens qui sont là même depuis 20 ans ont très, très envie. Ils aiment leur métier, ils aiment leur orchestre et ils ont envie
et
de travailler.
Et ce n'est pas le cas dans tous les orchestres ?
Non. On voit les orchestres plus ou moins blasés, plus ou moins fatigués. Et là, je dois dire que c'est vraiment une qualité assez, assez rare de voir des musiciens. Vous savez, vivre dans un, voilà, travailler en groupe, ce n'est pas toujours facile non plus. Hein. Mm-hmm. Et c'est un pianiste qui parle, qui est le, l'animal solitaire par excellence, puisqu'il peut tout faire avec son piano. Mm-hmm. Voilà, et je, j'imagine bien les contraintes que ça peut être. Et je vois des musiciens qui ont cette envie de travailler. Et donc, je suis là pour la cultiver.
Hier, nous recevions à ce micro, à votre place, la future directrice de Musique 3, nouvelle directrice. Et avec elle, nous parlions de l'enjeu de dépoussiérer l'image du classique, de désacraliser le classique. Est-ce nécessaire ? Première question. Et comment y parvenir ? Deuxième question.
Alors, désacraliser, je ne sais pas si c'est le mot juste, mais en tout cas, décloisonner, le faire sortir, par exemple, faire sortir l'orchestre de ses murs. C'est-à-dire que la musique, on a la chance. Moi, pianiste, c'est plus difficile parce que dépasser mon instrument, c'est un peu compliqué. Mais pour un orchestre, on peut aller jouer dans la rue, on peut aller jouer dans une école, on peut aller jouer dans une prison, on peut aller jouer dans une boîte de nuit, comme on va le faire à l'inauguration de Mons 2015. Voilà, donc c'est d'aller vers les publics qui peut-être ont cette timidité ou n'osent pas pousser les portes d'une salle de concert. Ça fait un peu peur, la salle de concert. Et la musique classique, elle-même, fait un petit peu peur.
Mais pourquoi est-ce que la musique classique fait peur ?
C'est pas la musique classique, en fait. Je dis une bêtise. C'est le contexte. C'est justement ce côté du rituel. Parce que si vous y pensez, dans nombre de films, de grands films de cinéma, la musique est utilisée dans les BO. Et les gens vont aller se ruer pour acheter la BO d'un film. Et ils ne savent pas qu'ils vont écouter du Mozart, du Schubert, du Beethoven. C'est-à-dire que cette musique les touche énormément. Mais dans une salle de concert, assis bien sagement avec des gars en noir qui jouent avec un air un peu trop sérieux, ça ne marche pas. Voilà. Mais c'est la même musique, c'est exactement la même musique. Donc elle a un pouvoir émotionnel, elle a un pouvoir de pénétration dans le cœur des gens qui est très 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 puissant.
Il nous reste quelques secondes. Cette semaine, nous avons reçu le chanteur d'opéra belge José Van Damme. Et il nous disait notamment ceci, la musique c'est ma maîtresse. Elle joue ce rôle-là aussi, la musique, pour vous ?
Non, pour moi, c'est... D'abord, c'est vrai que le piano, j'en joue depuis 40 ans. Je suis comme marié avec mon instrument. Je ne peux pas changer d'instrument. On peut se marier 2-3 fois, je ne vais pas me mettre à la clarinette ou au violon demain. Donc je suis marié, voilà, j'ai épousé cet instrument. Et la musique, pour moi, c'est une nourriture. C'est comme un oxygène, c'est comme une nourriture. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me coule dans les veines.
Merci d'avoir été avec nous ce matin, Franck Braillet.
Merci de votre
Bonne journée.
Tout le monde y passe sur la première.